Bonjour chers amis auditeurs de Radio Silence, nous sommes aujourd'hui le 5 août 2011 et nous allons parler du Grand Emprunt qui est une marche forcée vers le socialisme. Le titre de cette émission peut à lui seul émouvoir, éventuellement choquer certains auditeurs, pourtant les faits sont têtus. Les signes de cette marche forcée du pouvoir en vigueur depuis 2007 sont très nombreux et nous avons souvent attiré l'attention sur eux. Tout d'abord, pour dissiper les malentendus, il faut bien faire un peu de sémantique. Souvent, il est simplement question d'interventionnisme ou d'étatisme. Ces termes sont jugés relativement acceptables par l'électorat de droite abominablement floué depuis 2007. Ils cachent la vraie réalité qui est une marche forcée vers le socialisme. À titre de seul exemple, il y a toujours et en toutes circonstances la volonté de réaliser le bonheur des gens, malgré eux, parfois contre eux, et ceci à partir d'une centrale étatique. Le grand emprunt, qui sans cesse revient à la surface comme un serpent de mer, en est l'une des manifestations les plus claires. Au titre de l'historique, rappelons brièvement que l'idée fut lancée en novembre 2009 par un pur hasard. Un courtisan avait eu inopinément l'idée et l'avait ajouté au dernier moment dans un discours de l'hyper-président. La fusée s'était aussitôt envolée, le prétexte initial était la crise qu'il fallait surmonter. Les énarcho-socialos au pouvoir, pensant illégitimement que l'État est le seul à pouvoir agir dans ce domaine. Le fait nouveau est que le président lui-même vient d'annoncer 5 priorités pour une première tranche de 35 milliards, à savoir le développement durable, le numérique, l'enseignement supérieur, la recherche, l'industrie et les PME. Arrêtons-nous sur ce chiffre de 35 milliards. D'abord, il a annoncé que ce n'était qu'une première tranche. Combien de tranches y aura-t-il après? Il y a lieu de s'inquiéter. En plus, le total des investissements publics dépasse largement les 35 milliards, car les collectivités territoriales et sans doute l'Europe sont invitées à compléter. La France dispose, et nous ne savons pas jusqu'à quand, d'une note flatteuse dans les agences de notation. Cette situation toute provisoire lui permet donc de dépenser sans limite. La vraie gauche ne ferait pas pire que cette fausse droite. La crainte de se voir infliger un projet, le projet d'un emprunt, la crainte de se voir infliger un échec en forme de camouflet conduisit vite à abandonner le projet d'un emprunt public. Regrettons-le, car un emprunt à montant déterminé aurait limité l'effet de ruine que nous évoquerons plus loin. L'emprunt public a laissé place à un droit de tirage illimité. Comment distribuer cet argent que l'on n'a pas? Le choix des investissements n'obéit absolument pas aux indications données par un marché libre où les investissements sont choisis suivant leur rentabilité probable par des personnes responsables juridiquement et parfois sur leur fortune personnelle. Ils se réalisent dans l'esprit des lendemains qui chantent. En effet, il est livré à l'arbitraire de fonctionnaires et d'élus dans le cadre du foisonnement des intrigues. Pour savoir où investir, il fallait ouvrir une parlotte. Elle rassembla pendant plusieurs mois 24 membres. Les projets pendant la parlotte générale ont flotté au hasard de la pression des lobbies, syndicalistes et partis politiques officiels tirant AU et ADIA. Ce groupe est aidé par un comité de surveillance qui comprend notamment des parlementaires et des personnalités qualifiées. On dit PQ pour les intimes. Ce comité de surveillance doit assurer la circulation des fonds depuis le commissaire général jusqu'aux opérateurs existants avec des contrats d'objectifs très précis. Le génie prétendu fut de confier la présidence à deux richissimes cumulards, Rocard et Juppé, qui ont joué un rôle majeur dans l'écroulement de l'économie française. Le travail fut gigantesque, car puisque 400 investissements dits d'avenir ont été sélectionnés, ces gens ignorent que l'on investit toujours pour l'avenir, le tout étant de bien investir. Un autre aspect socialiste est la création de prébendes. C'est ainsi qu'il existe un commissaire général à l'investissement, René Ridicol. C'est un ancien expert comptable et l'on se demande ce qu'il vient faire dans cette galère. La ressemblance avec la défunte Russie soviétique est tellement frappante que l'on ne peut pas s'empêcher de penser au commissaire du peuple. Nous ne pouvons pas imaginer, en plus, qu'il travaille tout seul dans son bureau avec une assistante, et nous supposons donc une forte bureaucratie assise quelque part avec tous les frais afférents. Une bureaucratie publique étant immortelle, nous voilà mal partis. Un coup d'œil sur Google montre d'ailleurs un petit spectacle de la bureaucratie. Une autre caractéristique majeure est le foisonnement des faux raisonnements. Le premier est que l'État pourrait créer de la richesse. Il est flatteur et élégant pour les politiques de dire qu'en investissant de cette façon, on créera de la richesse. Parfois, on ajoute que c'est pour les enfants. Certes, il est possible d'affirmer qu'une population formée créera plus de richesses qu'une population non formée, mais dans ce domaine, le meilleur placement avec rendement immédiat serait de porter remède dès maintenant au véritable gâchis qu'est la prétendue éducation prétendue nationale. Le détour par les faux raisonnements évite de se poser les rudes questions que l'on se pose dans les firmes privées lorsque l'on investit avec l'argent des actionnaires ou celui des banquiers. Bien entendu, comme dans tout système socialiste, l'effet de ruine est plus que probable. Ce sera la ruine par les impôts et charges nécessaires pour rembourser l'endettement. Le poids de cet endettement nouveau jouera éventuellement dans le jugement des agences de notation libre. Il faut ajouter aussi le freinage des investissements privés. L'argent de l'endettement public réduira les possibilités d'emprunt privé. Les industriels et acteurs privés qui auront eu la faiblesse de tendre la main pour avoir des aides verront inévitablement leurs projets freinés par les formalités abusives, également peut-être par des exigences qu'ils n'auraient pas dû accepter. Ronald Reagan disait un jour, « Les mots les plus terrifiants dans la langue anglaise sont « Je suis le gouvernement et je suis là pour vous aider ». Chers amis auditeurs, je vous dis à mardi prochain, suivant l'usage.